Sanson. Paul Raphaël réveille les gens de Québec. Au FM 93. Que Québec se lève.
La chronique historique de François Thérien. Voici le studieux Sieur de Thérien.
Si vous voulez la chronique, il est trop tard. Vous l'avez manqué.
Vous avez manqué toute la chronique historique de la ville de Québec.
C'est incroyable, hein?
Malheureusement, mon cher Sieur...
Ben, c'était ça. Alors, j'espère que ça vous a plu.
Merci d'avoir, merci d'être venu nous voir, d'avoir bravé la neige.
Fait que grosso modo, on retient que quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est resté dans la maison de quelqu'un.
C'est ça. C'est
pas mal ça, ouais. Hey, les gars, vous êtes tellement fascinants à voir aller, là. Vez puis le Sieur, vous êtes dans pas mal de mêmes âges, les deux de Saint-Louis-de-France, à peu près.
Ouais, ben oui, j'ai déjà coaché François.
Ben oui.
Okay. Il se parle aussi.
Oui, mais là, mais ça, je sais pas si vous le savez, mais vous faites ça très souvent.
Ben oui.
Mais là, ça, c'était une des meilleures shots depuis longtemps.
Ah ouais. On a quadrillé la paroisse au complet.
Au complet. Hey, savais-tu que moi, je reste dans la maison des. L'ancienne maison de telle famille. Ah ouais, mais parlant de quelqu'un qui reste dans la maison de quelqu'un, ça, t'as dit ça, Vez.
Oh, oui.
T'as dit. Parlant de quelqu'un qui reste dans la maison de quelqu'un. Moi, j'ai connu un gars qui restait à telle place, c'était l'ancienne maison d'un tel. Évidemment, moi, vous me dites ça, puis je connais personne de tous ces gens-là. Non, moi, puis Alexis, on fait juste vous regarder, puis, hey, une autre anecdote. Et, à un moment donné, une telle, elle venait de là de Beauport, il l'avait amenée. Puis là, c'était fini. Puis, j'arrive du coin de la rue, qui sait, je tombe sur Caroline Tell, toi.
Hey!
Hey, imagine donc. Hey, c'est tellement hot, les gars.
Je suis très bien raide. Quand tu vas avoir notre âge, là,
et voilà.
Ça va être tes conversations. Mm.
Non, mais le pire, c'est que je le fais déjà avec des gens de mon âge dans le Vieux-Lévis. Ah oui? Tu sais, Lévis, Vieux-Lévis, Lauson, là, je m'en viens pas pire, mais je trouve ça fascinant, les gars.
Moi,
je vous écouterai, là, pendant la chronique, ça répète au complet.
Ben, on avait pas mal fini, hein?
Ben, ouais, c'était pas mal ça, là.
Ensuite, la semaine prochaine.
Ta dernière anecdote a quand même fini par. Fait qu'on amène une telle à Lac Beauport, puis on tombe face à face avec telle madame. C'était ça l'anecdote.
Oui, oui. Ben, en fait, c'est parce qu'RDS faisait une émission sur Manon
on va
et Homme.
Yes! Ah
ouais, vous allez savoir. Sur Manon et Homme. Puis Manon, je la connais depuis des années.
Ah oui, tu sais.
Fait que, puis les gens d'RDS le savent, c'est moi qui les avais mis en contact. Fait que. Et je vais les rejoindre pour voir un petit bout de la journée de tournage, puis tout ça.
Ouais.
Je les rejoins chez les parents de Manon à Charlebourg. Puis, on amène Manon à Lac-Beauport, parce que quand elle est née, ils habitaient à Lac-Beauport.
Okay.
Et on stationne devant la maison, ça fait qu'il y a le camion d'RDS, puis il y a moi, puis on placote, puis ils se préparent pour faire un petit tournage. Puis là, il y a une femme qui sort de la cour arrière de la maison, puis qui s'en vient en amont voir ce qui se passe. C'est la propriétaire.
Mm-hmm.
Je la connais.
Hein?
C'est une ancienne collègue.
Mais à ce moment-là, toi, tu restais-tu à Lac-Beauport?
Oui, ça fait 4 ans peut-être de ça, là.
Puis, tu étais stationné devant chez une personne, puis tu connaissais cette personne-là.
Oui, mais je la connaissais, mais je ne savais pas que c'est elle qui habitait là.
Non, c'est ça, c'est un hasard.
Oui, c'est complètement un hasard. Ça fait que là,
tu parles!
Ça fait que là,
il y a des hasards dans la vie.
Maudite affaire.
Amène Manon en arrière, puis là, elle est retournée dans sa cour arrière quand tu étais petite, puis visite la maison, voir comment ça avait changé.
Ah, parce que c'était son ancienne maison d'enfance.
Ben oui!
OK! Bon, Manon, ça, c'est le bout qui me manquait.
Fait que la maison d'enfance de Manon Réon m'appartient à quelqu'un que Vez connaissait, mais il savait pas que c'était elle qui restait là.
Voilà. Bon, mais c'est OK, mais je m'en veux d'avoir un peu ri ton anecdote. C'est super hot. Je pensais que t'étais juste allé avec Manon Réon n'importe où à Lac-Beauport faire un tournage. Puis tout d'un coup, la bonne femme, vous la connaissez. Ben OK, mais ça s'appelle croiser quelqu'un que tu connais. Là, tu vas à l'épicerie, tu fais « Hey, salut, toi, ça va bien? »
Okay, je n'avais pas mentionné qu'on était allé stationner devant la maison.
Ben, devais,
Manon Réon m'avait grandi.
Ça se peut que Paul n'ait pas écouté.
Probablement que c'est moi qui n'avais pas écouté aussi.
OK, bon.
Okay, hey, c'est, on apprend-tu des affaires?
On en règle des affaires.
Le Sieur de Thérien. Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ben ça va très bien. Là, aujourd'hui, on sort un peu de notre thématique bien plus que.
Oui, pas mal.
Oui, parce que...
On sort tellement de la thématique qu'on n'a même pas le thème.
Ah.
Ah ben non, on l'a eu le thème tantôt. C'était pendant l'anecdote de Manon Réon.
Hey. Okay.
Pendant qu'il vous comptait Manon Réon, qui te comptait pendant la pause, le thème a joué puis tout.
Ah ben j'ai rien vu. Oh,
oui, la chronique du Sieur de Thérien puis tout, là.
Bon ben écoute.
Donc les tanneries qui sont la première industrie de Nouvelle-France.
Ouais.
C'est ça l'affaire.
Ouais. Une tannerie, c'est un atelier qui transforme les peaux d'animaux en cuir. Il faut attendre 60 ans après la fondation de Québec par Champlain avant de voir la première tannerie s'établir ici. Bon, on en a parlé la semaine dernière, celle de François Bissot en 1668 à la Pointe-Lévis. On vous parlait de Guillaume Couture. Puis François Bissot, c'était le voisin de Guillaume Couture. Alors, puis la première tannerie.
Dans le bout du chantier des Vies.
Mmh. Exactement.
C'est parce qu'il était tanné de le voir.
Tannerie.
Alors,
bon, comment c'était triste comme réaction.
Ouais, mais, c'est correct.
Quelques années plus tard, ces tanneries-là vont se multiplier à Québec, exploitant les nombreux ruisseaux qui dévalent du haut vers la basse ville, parce que ça prend beaucoup d'eau pour faire des tanneries. On va y revenir. Pendant près de 100 ans, jusqu'à la conquête britannique, on comptera 20 maîtres tanneurs à Québec. Puis au milieu du 19e siècle, donc à peu près 100 ans après la fin du régime français, on comptera près de 600 personnes qui exercent le métier de tanneur à Québec. Ben, tanneur ou les métiers connexes là, qui sont reliés à la tannerie, là, parce qu'il y en a plusieurs. À cette époque, on compte une trentaine de tanneries qui sont situées la plupart sur la rue Saint-Vallier, qui à l'époque s'appelait la rue des tanneries.
Ah bon?
Parce que la rue Saint-Vallier, ben, elle longe la falaise. Alors, il y avait plein de petits ruisseaux qui descendaient.
Saint-Vallier Est.
C'est ça, exactement, gros, qui descendaient. Ouais. À partir d'Arago. Puis Saint-Vallier-Est, là, c'était la rue des tanneries à l'époque. Eh ben. Puis il y en avait une, puis une autre. Alors, il y en avait aussi dans le secteur de la Canardière, mais pas mal moins. Là. Il était en moins grand nombre dans ce coin-là. Comme je vous le disais, l'eau est un élément essentiel pour tanner les peaux d'animaux. Et les nombreux ruisseaux qui coulaient de la falaise dans ces années-là, ben, ça faisait un emplacement de choix. Là. C'était la place pour installer des tanneries. Aujourd'hui, il en reste une dizaine de tanneries au Québec, dont deux dans la région seulement. La tannerie, c'est un métier qui s'exerce depuis les années 1200 en Europe. La pratique est vieille de plusieurs millénaires, mais ce n'est qu'au 13e siècle que les premiers ateliers dédiés à cette activité apparaissent. Puis en Nouvelle-France, c'est l'intendant Jean Talon qui met en place des mesures pour la création des premières tanneries. Jean Talon croyait que la colonie devait fabriquer ses propres biens de consommation. Puis d'ailleurs, le premier intendant à poser les jalons de l'indépendance économique de la Nouvelle-France. Indépendance économique qui sera jamais atteinte, là, on va manquer de temps. François Bissot, celui qui démarre la première tannerie à Pointe-Lévis, va bénéficier de l'aide royale pour mettre sur pied son entreprise.
Déjà les subventions!
Et voilà! Qui dit industrie dit subvention, ben les tanneries ont parti le bal. Le succès dépasse et de loin les attentes de Jean Talon. Puis bientôt, là, au début des années 1700, il faut limiter le nombre de tanneries, là, parce que là, ça pousse comme des champignons, puis les autorités sont en train de perdre le contrôle. Après la conquête, là, il va y avoir une explosion de l'installation des tanneries. L'industrialisation de la Nouvelle-France s'accélère beaucoup après la conquête britannique, puis le secteur des tanneries n'y échappe pas. Reste que le métier de tanneur est parmi les plus difficiles à l'époque. Et puis il y a un classement des 10 pires métiers exercés en Nouvelle-France qui le place en deuxième position, derrière le bourreau.
Le bourreau,
c'était le pire. C'est lui qui zigouillait les criminels.
En même temps, tu sais, c'est pas c'est quoi un corps de travail de bourreau, là. Tu dois pas couper des têtes pendant 12 heures.
T'es sur appel pas mal.
Ouais.
C'est pas mal, ça.
Stand-by. Ouais.
Déjà, à l'époque, on avait une conscience pour le côté psychologique de l'emploi. Hein,
non, mais les tanneries, c'est parce que c'était des produits qu'il fallait que tu manipules, puis ça sentait fort.
Ben, c'est ça, parce que...
Un métier physique.
Eh bien, voilà. Le tanneur doit travailler avec de la peau d'un animal mort. Ben, alors, il en entrepose ça dans son atelier. Imaginez les odeurs qui régnaient. Puis, dans le procédé, à un moment donné, les peaux doivent être imbibées d'eau. Ce qui les alourdissait considérablement puis nécessitait un grand effort pour les manipuler. Là.
Ben, c'est ça.
Quand t'arrivais à la maison, à la fin de ton chiffre, là, tu prenais ça mollo. Oui. T'avais travaillé fort.
Tu t'installais devant le tricheur. Puis
c'était pas mal ça. Là. C'était une industrie très polluante parce qu'il y a toutes sortes de produits qui sont utilisés. D'ailleurs, l'eau qui ressortait des ateliers qui continuait son chemin jusqu'à la rivière Saint-Charles et le fleuve Saint-Laurent avait un effet que vous imaginez sur les cours d'eau. Là. La pollution, oui. Là, ça a commencé de bonne heure. Et puis le tannage peut être une activité très dangereuse dans un quartier parce que le grand incendie qui a ravagé Saint-Roch en 1845 a pris naissance justement dans une tannerie qui était située sur la rue Arago. À cette époque-là, on était en juin. Le quartier a été entièrement détruit. 50 personnes sont mortes et 12 000 se sont retrouvées sans logis. Là, c'est une conflagration. Là. Saint-Roch au complet, lui, y avait passé. La croissance des tanneries après la conquête illustre parfaitement les différences de vision entre la France et l'Angleterre face à leur colonie des Amériques. Parce qu'on se demande tout le temps pourquoi la Nouvelle-Angleterre s'est développée de façon fulgurante, oui. Tandis que nous autres, là, c'était au petit bœuf, là, ça traînait, c'est le cas de le dire. Ben, il y a quelques semaines, je vous faisais part des différences de population. En 1745, en Nouvelle-Angleterre, sont 1 million. Nous autres, on est 55 000. C'est une puce là, parmi une forêt de géants. Là. Pourtant, à cette époque-là, la France a le double de la population de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande réunies. C'est grosso modo 20 millions pour la France puis 10 millions pour les autres. Alors, comment ça se fait que les gens de ces pays-là venaient en masse en Nouvelle-Angleterre puis que les gens de France étaient arrivés au compte-gouttes ici, ben, il y a plusieurs raisons. En Nouvelle-France, toutes les décisions concernant le développement devaient être autorisées par le roi. Donc, c'est la France qui décidait, bon, qu'est-ce qu'on fait avec la Nouvelle-France? Qu'est-ce qu'on a besoin? La France, ouais, là, qu'est-ce que la Nouvelle-France peut nous fournir?
C'était le principe du mercantilisme.
Ben, c'est, en fait, c'est
la
ça.
La colonie qui produit des ressources et autres, mais qui les envoie...
Qui est au service de la métropole.
C'est ça.
C'était carrément ça. C'était un peu ça aussi dans les 13 colonies britanniques, mais ces colonies-là, la Nouvelle-Angleterre, avait beaucoup plus d'autonomie que la Nouvelle-France. Puis, donc, le développement économique rapide en Nouvelle-Angleterre attire davantage de colons que chez nous, bien évidemment. Et comme je vous l'ai mentionné auparavant, les Anglais sont moins regardants sur les gens qu'elle envoie dans ces colonies, contrairement aux Français qui les trient pratiquement sur le volet. Quand je vous ai parlé des Juifs de Québec, je vous disais que dans le temps de la Nouvelle-France, des Juifs qui arrivaient ici, il n'y en avait pas, parce que les Français n'envoyaient que des catholiques au Canada.
Okay.
Tous ceux qui étaient d'une religion autre, là, ils n'envoyaient pas ça en Nouvelle-France. Tandis que les Anglais, eux autres, là, ta religion, ça comptait pas.
Tu veux y aller,
tu y vas, let's go, t'es parti, bonne chance, mon grand. Puis aussi, bien évidemment, il y a la géographie qui avantage les Anglais. Les conditions de vie sont beaucoup moins dures qu'en Nouvelle-France. Mais les hivers, évidemment, là. Ici, là, à l'époque de la Nouvelle-France, l'hiver, les gens hibernaient, là, carrément, là, il se passait rien. Tandis qu'en Nouvelle-Angleterre, ben, les hivers étaient moins difficiles. Puis plus on descendait vers le sud, ben, c'était pas si pire que ça, finalement. Alors, ça aidait beaucoup, beaucoup le développement économique. Puis tout était sur le bord de la mer. En Nouvelle-Angleterre, là, c'était le long de la côte, tout le long. Tandis qu'ici, il fallait rentrer dans le fleuve Saint-Laurent. C'était plus compliqué, la navigation était difficile. Alors, bref, là, tout ça mis ensemble fait que le développement économique était plus difficile ici. Il va falloir attendre le successeur de Jean Talon, l'intendant Hocquart, pour voir la véritable lancée de l'industrialisation de la Nouvelle-France. Gilles Hocquart a été intendant de 1729 à 1748, presque 20 ans. Il va succéder à Jean Talon et c'est celui par qui est arrivé le projet. Ben, Jean Talon, c'est lui qui a lancé les tanneries, là. Mais Hocquart, lui, va enclencher le véritable programme d'industrialisation de la Nouvelle-France. C'est lui qui est à l'origine du premier chantier naval qui a été installé à Québec, ainsi que des premières scieries. Évidemment, on avait besoin de ça pour le chantier naval. C'est lui également qui va mettre sur pied les forges du Saint-Maurice.
Ah bon?
C'est sous son règne que les forges du Saint-Maurice voient le jour.
Encore dans ça, toi?
Le chemin du roi. Hein, le chemin du roi entre Québec et Trois-Rivières voit aussi le jour sous sa gouverne. Toutes ces initiatives-là avaient pour but de diminuer, voire mettre fin à la dépendance de la colonie face à la France, puis aussi accélérer la colonisation de certains secteurs de la rive nord du fleuve, là, surtout passer le lac Saint-Pierre. C'était pas colonisé beaucoup, il n'y avait pas grand monde, fait qu'on se dit avec un chemin, ça va aider. Mais ces mesures-là auraient dû être prises au moins une cinquantaine d'années avant, là. Parce que lorsque la France et l'Angleterre entrent à nouveau en guerre, ben, le programme d'industrialisation n'est pas assez avancé en Nouvelle-France pour résister aux Anglais. Alors, ça a été ce qu'on connaît, la conquête, finalement. L'intendant Hocquart va déclarer que ses 20 ans en Nouvelle-France auront été un échec.
Ben, c'est bon. Hocquart, c'est pas un nom qu'on a entendu souvent non plus. Là. Jean Talon, oui.
Oui, mais moi, je le connaissais pas.
Hocquart, il y a pas de boulevard Hocquart, il y a pas de marché aux puces Hocquart.
Non, c'est peut-être que ce sera le prochain. En fait, lui considérait que c'était un échec, mais l'histoire prouve que c'est pas totalement le cas quand même, parce qu'il y a certaines de ces initiatives qui ont permis aux habitants d'ici de faire leur place dans le régime anglais. Mais la France n'a effectivement tiré que peu de bénéfices de ce travail-là, parce que quand ça commençait ou quand on voyait poindre l'effet que ça pourrait rapporter, ben les Anglais ont mis la main sur le pactole, finalement.
Fallait passer l'été à... Excuse-moi, j'avais fermé mon micro. Merci, Alexis.
C'est moi qui l'ai fermé parce que ça paraissait pas, mais quand tu joues avec ton papier en avant de ton micro, on l'entend.
Ça paraît. C'est ça. En Nouvelle-France, il fallait que tu passes presque l'été à préparer l'hiver, finalement.
Ben,
le développement est amputé. Le temps que tu as pour défricher et découvrir des nouvelles terres et autres, quand il faut que tu passes du temps à accumuler de la nourriture pour l'hiver, puis des affaires, puis te barricader et autres. Là,
ben, c'est ça. C'était de la survivance. À cette époque-là, là, c'est de la survivance. Alors, évidemment, le développement économique, c'était un petit peu difficile de le faire. Puis, à quelque part, on a manqué de vision. La France a manqué de vision parce qu'elle aurait pu le lancer un peu plus tôt. Est-ce que ça aurait changé le cours de l'histoire? On le saura pas, mais c'est sûr que au moment où on a décidé de développer économiquement la Nouvelle-France, ben là, les Anglais ont commencé à regarder ça. Ah, regarde ça, toi!
Une chose est certaine. tu as changé le cours de l'histoire de cette émission.
Ah, arrête.
Comme à chaque semaine. Il y a même un auditeur qui dit, j'aurais donc aimé ça que le sieur de Terrien soit mon prof d'histoire au secondaire.
Ah, mon Dieu. J'aurais aimé ça faire ça, moi. J'aurais ben, aimé ça.
Je sais pas, c'est proche, moi, d'être prof d'histoire. Hein?
Ça aurait été très bon.
Autant que t'as passé proche d'être pape ou plus proche.
C'est quoi cette histoire-là?
J'ai pas passé proche d'être pape. Je voulais être pape.
OK,
mais
c'était
quand
ton...
j'étais enfant. Mais j'ai pas passé proche. J'ai étudié, j'ai fait un an en histoire à l'université avant d'aller en com.
Ah oui?
Oui, monsieur.
Je sens qu'il est arrivé quelque chose pour que ça aboutisse pas.
Je pourrais te raconter peut-être ça un moment donné, je te conterai ça. Non, mais
l'histoire s'est mal terminée.
Oui, oh. Exact. Exact.
Non, mais okay. Les perspectives d'emploi à l'époque n'étaient pas extraordinaires.
Non, c'est sûr. C'est pour ça que la papauté, tu te dis,
ben,
je
comprends. Ben, il y a le chasseur.
C'est vrai. Tu mets tous tes œufs dans le même panier, puis tu y vas all in. Tu baisses la tête, puis tu fonces.
Ah oui.
Hey, merci, le ciel. On se reparle la semaine prochaine.
Et dans deux semaines, soyez prêts, parce que c'est l'examen de mi-session.
Oh, palais. Écoute, ça allait bien, mais là, voici le stress qui vient d'embarquer. François Thérien.